Les cétacés sont ces animaux que jamais l'homme ne pourra empailler, et pour cause. Comment les admirer, mieux les connaître et s'associer à la lutte contre le triste sort qui est réservé aux mammifères marins. Le réseau cétacé est une source très complète, et ainsi que son nom l'indique, il fonctionne en réseau efficace.
Sandra Guyomard, est-ce que l'on dit tout? On est en train de faire l'école buissonnière le long des quais de Paris.
Tout à fait, ouais, c'est bien agréable.
On triche pas, hein, on est au bord de l'eau, on entend les mouettes et on est bien contente parce que on s'est rencontrés lors d'une soirée, d'ailleurs, dont Radio Éthique a parlé, lors de la venue de Jane Goodall à Paris. Et puis, ben voilà, on va parler des cétacés.
Très bien, avec plaisir.
Réseau Cétacé, que vous coordonnez, est basé à Montrouge. Là, vous n'êtes pas tout à fait au bord de l'eau.
Non, effectivement, on n'est pas tout à fait au bord de l'eau. Maintenant, il y a une telle menace qui pèse sur les cétacés qu'on peut les défendre de n'importe où. Alors, c'est vrai qu'il est peut-être un petit peu plus difficile de sensibiliser les gens qui ne sont pas proches du littoral. Mais bon, pas besoin de vivre en bord de mer pour protéger et pour bien faire pour la sauvegarde des cétacés.
Puis on sait très bien qu'aujourd'hui, on fonctionne beaucoup avec Internet.
Exactement, oui. Internet, effectivement, est un portail d'information et un vecteur d'information très, très important. Alors, on peut aussi tomber dans le sens inverse. Mais au jour d'aujourd'hui, Internet, pour nous, est un bon vecteur d'information.
Alors, quel est votre site? Parce que moi, je l'ai regardé et j'avoue que j'ai trouvé ça bien. J'ai eu l'impression de partir en vacances.
Le site, c'est www.réseaucétacé.fr. Effectivement, il est divisé en plusieurs sous-parties. On a une partie qui permet de s'informer, une partie qui permet de s'engager et une autre partie qui est destinée à la sensibilisation par la beauté du spectacle qui propose d'emmener les gens à la rencontre des cétacés dans leur milieu naturel.
Il y a aussi des photographies, il y a des vidéos, des bons photographes qui travaillent pour vous d'ailleurs.
Oui, tout à fait. Oui, le réseau est constitué vraiment d'une multitude de personnes avec des compétences particulières ou pas de compétences du tout. Mais en tout cas, on essaye de mettre en avant les compétences de nos membres, qu'elles soient photographiques, intellectuelles, manuelles.
Alors on pourrait le demander à l'auditeur, mais qu'est-ce que c'est qu'un cétacé? C'est un mammifère marin, donc il a des poumons comme nous et il respire sous l'eau. Et puis, la suite, j'en sais rien.
Alors, un mammifère marin n'est pas un poisson. Effectivement, c'est un animal pulmonné qui doit remonter en surface pour prendre son air. C'est un animal aquatique, un mammifère marin. On recense plus de 80 espèces de cétacés.
Il a du sang chaud aussi.
Il a du sang chaud, il met ses petits au monde. Ce ne sont pas des œufs que les cétacés pondent, vraiment des nourrissons qui sont mis au monde.
Alors qu'il y avait eu au Muséum National d'Histoire Naturelle l'exposition incroyable cétacés qui était très belle. On apprenait aussi qu'en fait, que la baleine avait été plutôt au long de son histoire un animal terrestre qu'un animal marin.
À la base, les cétacés étaient des animaux terrestres qui avaient au moins un ancêtre commun avec l'hippopotame. L'ancêtre du cétacé était un petit animal à quatre pattes avec des poils assimilables à un chien.
Il y a des cétacés d'eau douce. Hein.
Il existe plusieurs espèces de cétacés d'eau douce qui sont morphologiquement parlant différents des cétacés océaniques. Ils ont des orifices oculaires qui sont diminués parce que l'eau douce est en sombre, ils ne se guident pas grâce à leurs yeux mais grâce à leur sonar. Et ces cétacés d'eau douce, oui, on n'en parle peut-être pas suffisamment, mais ils sont également hyper menacés par l'industrialisation des points d'eau dans lesquels ils vivent.
Ouais. Les rudiments que je sais sur les cétacés, en fait, c'est parce que j'ai regardé votre site. Hein, ça ne sort pas de ma culture personnelle. Voilà. Quels sont aujourd'hui les cétacés les plus menacés?
Ils le sont tous. Ils le sont tous, on va dire, de manière égale. On pourrait peut-être mettre en avant les baleines, donc les grands cétacés à fanon, dont certaines populations ont été décimées notamment à cause de la chasse industrielle. Ce qu'il faut voir à l'heure actuelle par contre, et ça c'est valable pour tous les cétacés, c'est que la première cause de mortalité est liée directement ou indirectement à l'homme.
C'est la recherche de la bonne chair, entre guillemets, de la baleine pour faire, comme disait Gilles Boeuf, le président du Muséum National d'Histoire Naturelle, des raquettes de tennis.
Il n'y a pas que la chasse baleinière malheureusement. Effectivement, donc la chasse baleinière, elle a toujours cours.
Parce qu'on ne fait plus d'huile pour s'éclairer quand même avec une baleine, et je jure que ma raquette de tennis n'est pas faite en baleine. Et on éprouve vraiment le besoin comme ça de détruire des espèces pour manger.
Au Japon, oui. Au Japon, oui. Les Japonais explosent les quotas de baleines en termes de chasse. Ils se cachent derrière un prétexte scientifique qui est naturellement totalement fallacieux, puisque la viande issue des baleines chassées pour raisons scientifiques est très largement vendue sur les marchés japonais. Donc oui, on mange toujours de la viande de baleine à l'heure actuelle. Et là, pour l'exemple du Japon, on n'est pas du tout dans le cadre de la chasse aborigène de subsistance. La viande de baleine, elle est là pour approvisionner un commerce marginal. En plus de ça, les stocks de viande de baleine ne s'écoulent pas tant que ça. Donc on reste vraiment dans du marginal et c'est pas pour aller nourrir le pauvre peuple.
Le thon rouge non plus, remarqué.
Non plus, effectivement, ouais.
Comment vous y prenez? Parce que c'est quand même pas très facile de protéger les baleines. J'ai un peu de mal, moi, à aller protéger une baleine.
Il y a plein de petits gestes à faire. Le mieux est de s'informer auprès des associations. Alors Réseau Cétacé, pourquoi pas, mais il en existe d'autres.
Hein. Et vous faites aussi de la publicité pour Abyss. J'ai vu.
On est un réseau également, donc on est là pour promouvoir nos actions, mais également toutes les actions qui sont en rapport avec la sauvegarde des cétacés. Donc le mieux, oui, la première des choses à faire, c'est de s'informer auprès d'une association de protection des cétacés. Nous, par exemple, on réagit à l'actualité, et en fonction de l'actualité, on donne des lignes de conduite à nos membres. Alors ça peut être très simple, ça peut être de signer une pétition, parce que les pétitions permettent de faire appliquer des textes. C'est d'ailleurs notamment grâce à une pétition que le moratoire qui interdit la chasse commerciale à la baleine n'a pas été levé en juin dernier lors de la réunion de la commission baleinière internationale. À l'heure actuelle, on a également lancé une opération qui est très simple mais efficace, qui s'appelle 23 000 dauphins massacrés, 1 euro pour faire la différence. On demande à chacun de nos internautes de verser 1 euro, c'est rien. Grâce à l'élan de solidarité qui se crée, on est, après 3 semaines d'opération, à un petit peu plus de 1070 euros pour une opération qui va s'étendre jusqu'à la fin septembre. Donc voilà, c'est des petits gestes simples qui permettent vraiment de faire quelque chose et d'apporter sa pierre à l'édifice.
1 euro, c'est ce que demande un opérateur parce qu'il n'a pas le droit de donner un téléphone. Donc c'est vraiment quand même pas grand-chose.
C'est par rapport à ce que ça permet de faire après, parce que ça va permettre à Rico Barry, qui défend avec beaucoup d'énergie les dauphins au Japon, ça permet de le renvoyer sur place. Sa présence en plus est dissuasive, donc tant qu'il est là, les pêcheurs de dauphins perdent tellement de temps à essayer de finalement lui courir après, hein, c'est le méchant qui court après le gentil, que pendant ce temps-là, les dauphins sont moins massacrés.
Avec qui vous travaillez en particulier? Avec Greenpeace, bien sûr, avec...
Ça dépend. Encore une fois, on travaille là où les dauphins ont besoin de nous. C'est vrai qu'en ce moment, on est un petit peu plus sur le massacre des dauphins au Japon parce qu'on se sert notamment de l'impact d'un film qui est sorti récemment qui s'appelle The Cove, la baie de la honte, diffusé par Luc Besson en France. Donc ce film a reçu l'Oscar du meilleur documentaire 2010. On saisit vraiment l'opportunité du ramdam fait autour de ce film pour plus se concentrer sur les massacres de dauphins au Japon. Après, on a aussi une action contre la captivité des cétacés, contre les massacres de dauphins au Féroé, parce qu'on parle de ce qui se passe au Japon, mais ce qu'il faut voir, c'est que dimanche 19 juillet, donc il n'y a vraiment pas longtemps, à 2 heures d'avion de Paris, il y a 250 globicéphales, donc cousins du dauphin, qui ont été massacrés dans des conditions absolument innommables. On est là où les cétacés ont besoin.
Le bonnet d'âne, c'est vraiment le Japon. Est-ce qu'il y a d'autres bonnets d'âne, malheureusement?
Ils ne sont pas beaucoup à pouvoir trôner le Japon. Le bonnet d'âne est vraiment décerné aux Japonais, ça c'est évident. Alors pas tous les Japonais, hein, naturellement, parce que certains citoyens japonais ne savent pas forcément ce qui se passe le long de leur côte, et c'est légitime. Hein. Après, naturellement, il se passe des choses partout dans le monde. Au Pérou, les dauphins sont également massacrés pour leur viande. On vient de parler des Féroé, qui sont des îles qui appartiennent au Danemark. Enfin, elles appartiennent au Danemark, mais par contre, elles ont des autorités indépendantes pour tout ce qui concerne les ressources halieutiques. Donc, il n'est pas forcément efficace de demander au Danemark de faire quelque chose pour que ça s'arrête. Et après, on peut aussi parler d'une responsabilité plus globale, mondiale, puisque la pollution détruit l'environnement des cétacés également.
Quel est le pays qui fait le plus, hein?
Probablement les pays d'Asie et les États-Unis. Si on se base, on va dire, sur les 2 derniers mois, c'est les États-Unis sans aucun doute.
Et vous-même, qu'est-ce qui vous apporte à vous intéresser de la sorte aux cétacés?
Tout ce que j'ai vu m'a conforté dans la nécessité d'une telle démarche.
Sur Facebook aussi, on peut vous retrouver?
Oui, tout à fait. On a une page sur Facebook. Et justement, pas plus tard que ce matin, j'ai partagé une vidéo qui montrait les massacres de globicéphales. Donc au Féroé, les fameuses petites îles appartenant au Danemark qui se trouvent à 2 heures d'avion de Paris. Moi, je ne l'ai pas regardé jusqu'au bout. Je pense avoir regardé les 10 premières secondes. Mais les 10 premières secondes parlent d'elles-mêmes. Hein, ce jour-là, il y a 250 globicéphales qui ont été massacrés dans des conditions inimaginables.
La petite chance finalement, c'est que les cétacés sont carnivores, hein, et un jour il faudrait qu'il y en ait un de temps en temps qui morde un petit peu ou qui croque dans la cuisse d'un pêcheur.
Alors on voit quand même ces derniers temps que les cétacés se rebellent. Ça a commencé en février 2010 avec une orque qui s'est retournée contre sa dresseuse et qui l'a tuée. C'est pas le premier accident, mais par contre il y a eu une espèce de suite en 2010. Il y a quelques semaines, c'est vraiment récent, une petite quinzaine de jours, c'est un cétacé qui s'est échappé de son bassin en plein chaud. Plus récemment, c'est une baleine en Afrique du Sud qui est venue heurter un voilier et qui a créé des dommages matériels assez importants. On suppose qu'elle a été hyper sollicitée par des bateaux au préalable et que malheureusement, l'un d'eux a pris pour les autres.